Bonjour les amis, on est avec Quentin Gailly. Bonjour Quentin.
Bonjour Pierre.
Alors on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, tu m'as parlé de son business qui m'a étonné, qui m'a plu. C'est quoi d'abord, qui es-tu, d'où viens-tu?
Alors, qui suis-je? C'est toujours une question intéressante. Je dirais qu'avant tout, je suis un papa récemment.
Déjà. Ah, t'as quel âge?
Et j'ai 34 ans.
34 ans.
Et ça fait 5 semaines et demie que je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Cléophée.
Cléophée, c'est joli ça. Donc ça bouleverse en général la vie. On dit plutôt des femmes que des hommes, mais ça reste un changement radical. On partage le même âge. J'étais papa à 34 ans aussi, donc voilà. Très bien, donc bienvenue dans le monde. Qu'est-ce que ça change, le fait d'être papa?
Écoute, je dirais une responsabilité que je ne me sentais pas d'avoir avant, la responsabilité de quelqu'un d'autre, qui est ma fille. Et puis alors, moi je trouve qu'être papa, c'est aussi avant tout avoir toujours un miroir en face de soi.
Ah, c'est joli,
et je trouve ça vraiment profondément fantastique. Et à la fois, j'ai envie de le partager, dur aussi, parce qu'il y a des moments où je me sens un petit peu seul, je suis aussi très 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 sensible.
Bah, ça veut dire que la vie de père, je rappelle, moi on m'avait dit dors avant parce que tu ne dormiras plus jamais comme avant. Et la deuxième chose, à un moment tu vas pouvoir mettre le feu au rideau parce qu'il y a un tel focus de la maman et de l'enfant que les hommes, on a un peu de mal à exister dans les premiers mois, on se demande ce qu'on fait là en fait. Hein.
Eh bien écoute, c'est ce que j'allais dire quand je disais que je trouvais ça difficile, c'est que trouver sa place de papa, c'est...
Ça prendra du temps, voilà, voilà. Il faut être patient. Et donc,
exactement.
Respect à nos femmes et à nos mères et aux femmes en général qui font un métier fantastique, c'est de mettre les enfants au monde. Je crois qu'on a du mal à comprendre ce qu'elles vivent. Il faut respecter eux et puis ça se mettra en place quand la petite Chloé fait, c'est ça ?
Cléophée, oui.
Cléophée, on n'aura Dieu que pour son papa, tu verras. Tu auras ta
revanche,
si je peux me permettre de dire comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude et quel business ? Donc, tu as lancé un nouveau business. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ?
Eh bien, écoute, donc, à la base, moi, j'ai étudié ingénieur de gestion,
oui.
Donc études assez traditionnelles, je dirais.
À Louvain-la-Neuve, c'est ça, hein ?
À Namur et puis à Louvain-la-Neuve. Voilà. Et puis, donc, je viens d'une famille assez traditionnelle, on va dire. Donc, faire des études à l'UNIF, c'était un peu normal et obligatoire. Et puis donc j'ai commencé par bosser là-dedans, dans la consultance, puis j'étais dans
la consultance, c'est-à-dire dans les Big Four, c'est ça
Non, j'ai fait ça dans une petite boîte qui s'appelle Hormit, très, très sympa. Et puis alors, petit à petit, j'avais quand même envie d'entreprendre, donc je me suis dirigé plus vers les finances. D'abord, j'ai créé un business de conseil en investissement immobilier. Mmh. Et puis derrière ça, j'ai créé un fonds d'investissement avec un de mes meilleurs amis à Luxembourg. C'était super sympa.
Comment s'appelle cet ami, tu peux le citer, hein.
Oui, Grégory Guillemin.
Ah ouais, qu'on connaît, je me doutais que c'était
voilà.
Lui. Il a fait pas mal de crédit, il a un peu débordé, mais Grégory qu'on connaît bien, donc voilà. Comment bien dépenser son argent en bourse. Donc, voilà,
exactement, tout à fait.
Voilà. Bah, ce serait bien. Quentin, pourquoi être entrepreneur, c'est vouloir être libre? C'était ça qui t'inspirait?
Écoute, c'est exactement ça. C'est avoir... on va dire que j'ai un petit peu du mal avec l'autorité, mmh. Et surtout quand je la trouve pas juste.
Voilà.
Et vu mon tempérament et mon caractère un peu atypique, j'ai besoin d'énormément de sensibilité et de douceur.
Voilà.
Et on va dire que dans le monde des entreprises aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas.
Ouais, surtout dans le monde du business et qui plus est de l'argent. Hein, donc... Alors tu défends une des valeurs, c'est l'authenticité, c'est ce que tu m'as dit.
Exactement.
Soyez vous-même, même si on peut se permettre aussi de dire qu'il y a des gens qui ont deux profils. Hein. Un profil professionnel, les amis quand ils répondent devant toi,
c'est clair.
Tu ne les reconnais pas. Donc est-ce qu'il y a moyen d'avoir deux personnages en soi comme les comédiens? Il y a peu de gens qui jouent sous leur nom. Espèce de nom de scène, on peut pas marcher dans cette voie-là.
Alors si, tout à fait. Moi, je suis un fervent défenseur de l'authenticité, mais comme je dis, c'est pas à tout prix, c'est plus d'authenticité. D'ailleurs, je pense que personne n'est entièrement authentique, ça n'existe pas.
Bon, je veux dire, la vie n'est qu'une longue répétition d'une représentation qui n'aura jamais lieu, qui vient d'un Manipoulin, donc dans le film, je trouvais ça très juste. Donc ouais. Ça veut dire quoi? Comment tu vends alors? Tu vends quoi? Tu vends le fait d'apprendre aux gens à être authentiques? Comment ça se passe?
Alors, en fait, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le tableau n'est pas hyper clair et rose, on va dire, dans le milieu de l'entreprise en général. Il y a beaucoup de dépression, de burn-out, beaucoup de gens se plaignent, il y a beaucoup de frustration dans les entreprises, etc. Et moi, mon parcours m'a amené à un moment à voir les choses différemment. En fait, c'était très simple, c'est que donc je parlais du business d'investissement immobilier. Ce business d'investissement immobilier, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi que je le faisais, mais c'était le rêve de ma maman. Donc tout ça m'a amené à faire tout un chemin sur moi pour me rendre compte que, en fait, je la fais très courte, mais ma relation aux autres, c'était de vouloir absolument les sauver. Donc quoi qu'il arrive, quand je rencontrais quelqu'un, il fallait que je trouve quelque chose pour lui plaire, pour le sauver.
Ouais, donc c'était un vrai empathique, hein. On appelle ça l'empathique, c'est les gens qui sont heureux que quand ils voient que le bonheur irradie sur les autres.
Voilà, c'est ça. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était fondamentalement pas juste, puisque en fait mon bonheur dépend de celui des autres.
Voilà.
Et là, je me suis dit, bon, en fait, enfin, voilà, y a quelque chose qui n'est pas juste. Quel est mon besoin? En fait, qu'est-ce qui me nourrit moi? Et je me suis rendu compte que ce qui me nourrissait, c'était d'avoir des échanges avec les gens où je sentais qu'ils étaient eux-mêmes. Et vu que je suis hypersensible, je sens très très vite quand les gens sont authentiques ou ne le sont pas.
Voilà, on va s'écouter un peu de musique, hein, pour les gens sensibles dont je fais partie. On peut simplement dire on n'est pas fait pour ce monde, hein, parfois. Et puis on s'est dit comment faire pour l'être et tout le milieu artistique, en fait, beaucoup de sensibilité à fleur de peau qui souffre aussi beaucoup. Bah. Quentin, c'est ça, dans le monde maintenant, on remarque qu'il y a beaucoup de gens atypiques. La sensibilité fait partie des gens, et on l'en voit. Hein. C'est rare que des hommes politiques ou des hommes ou des femmes d'affaires demandent pardon. On a vu Karine Funk pleurer en Parlement l'autre jour et ça a surpris et on s'est dit waouh, elle a peut-être raison. Donc ces gens, on est dans un système où il faut être fort tout le temps et on ne peut pas montrer des signes de faiblesse.
Tout à fait, ça c'est vraiment une des grandes croyances qu'il y a et c'est ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas être soi, on ne peut pas être sensible, alors que j'ai la croyance que tout le monde est sensible. Alors certaines personnes sont hypersensibles, sont très sensibles, mais tout le monde a une certaine
On
sensibilité.
recherche encore la sensibilité chez Vladimir Poutine, mais il doit y en avoir. Hein. Donc, mais comment tu en fais ton business, c'est ça? Dire,
Alors.
vraiment, si on a un discours de bisounours, ce qui est très sympa, mais les gens disent, bah, mais il nous propose quoi? Les gens qui sont peut-être sensibles et qui disent, comment ce garçon peut m'aider, en fait?
Tout à fait. Alors. J'aime bien partir sur des choses concrètes.
D'accord.
J'entends énormément de patrons de petites entreprises qui disent, le problème, c'est la gestion du personnel. Je ne sais plus gérer du personnel, je ne sais plus trouver du personnel. J'en ai marre. Et je sens vraiment beaucoup de frustration par rapport à ça.
D'accord.
Ça, pour moi, c'est quelque chose de très concret.
D'accord.
Quand je vois, enfin, je discutais avec un patron l'autre jour qui me dit, écoute, il y a encore eu des disputes chez moi dans mes équipes, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi est-ce qu'il y a des disputes? Pour moi, les disputes et les frustrations, elles viennent parce qu'il y a un manque de communication. Et de communication, principalement, c'est, pour moi, on doit réapprendre. Tu parlais de la personne qui pleurait au Parlement, j'ai oublié son nom.
Karine Franck.
Voilà, Karine Franck, merci. À partir du moment où je vais oser partager un petit peu plus comment je me sens, je vais créer un environnement où ça va être le cas pour tout le monde. Et si tout le monde partage un peu plus ses frustrations, ce qui est difficile pour lui, en fait, les autres peuvent en tenir compte. Et à ce
Oui,
moment-là,
il y
on
a des
arrive de.
tendances, on voit arriver des happiness managers dans les
Mmh,
sociétés, donc c'est
tout
un
à
peu
fait.
ça. C'est un peu des gens qui sont des éponges, hein, donc. Et donc c'est pas ça une des solutions?
Alors, oui, il y a, alors, y a, c'est déjà pas mal d'avoir quelque chose comme un happiness manager. Après, je pense que ce qui est vraiment important, qu'il y ait un happiness manager ou pas, c'est que on encourage que la structure de l'entreprise ou que l'entreprise mette le cadre pour encourager ce genre de choses. Et quand je dis encourager, c'est par exemple, ça peut être des choses très, enfin, que moi je fais au début de mes réunions, j'aime bien partager, enfin, demander une météo intérieure. Où
Voilà.
chacun partage comment il se sent.
Et puis un petit moment de respiration qui paraît un peu, ça paraît un peu yéti, on a l'impression que Mathieu Ricard débarque en salle, mais n'hésitez pas à le faire. Hein. Quentin, on a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement on est un peu tenu par le temps. Donne-nous les endroits où on peut te retrouver sur les internets alors.
Principalement sur LinkedIn. Aujourd'hui sur LinkedIn, Quentin Gailly, vous me retrouvez et voilà.
Voilà, mais on reprendra cette conversation quand tu veux. Hein. Donc,
Avec grand plaisir.
voilà, donc on a besoin de ça et le monde est fait que de chair et de sang. Quelque part, on l'oublie trop souvent. Et puis voilà, c'est une question d'humilité aussi, un peu parfois.
Certainement, et puis rappelons-le qu'on est avant tout un cœur et pas un cerveau. On est d'abord un cœur et puis un cerveau.
Voilà.
Et je pense qu'à partir du moment où on accueillera le fait qu'on a un cœur, ben, les entreprises fonctionneront mieux.
Voilà, je rappelle que la vie est une maladie mortelle et que par ailleurs, vous n'en avez qu'une. Merci Quentin.
Merci Pierre.